Oui, la diffusion des informations, c'est vraiment quelque chose de spécial. Je parie ce matin, il n'y a pas une place de village en France, pas un café, pas un bureau, pas un atelier qui n'échappe à des discussions sur la grippe porcine mexicaine et sur le risque fort peu probable par ailleurs d'une pandémie mortelle. Et à côté de ça, silence presque total sur la destruction programmée de l'hôpital public par la loi Bachelot. L'hôpital public, comme la sécurité sociale, sont le patrimoine de ceux qui n'ont pas de patrimoine. Et les premiers intéressés, c'est-à-dire en fait 90% des Français, n'ont pas accès à cette info, ou si peu.
Bonjour à tous, aujourd'hui c'est la Saint-Valérie. Alors bonne fête à toutes les Valéries, et en particulier à notre ministre. Aujourd'hui à Strasbourg, on va aller manifester pour lui prouver notre amour et notre soutien. Bonne fête Valérie.
Oui, bonjour à tous. C'est un témoignage d'une action collective envers nos concitoyens d'Europe, les Roms roumains. Donc à Houille, dans les Yvelines, des Roms roumains ont occupé une friche industrielle, laissée à l'abandon depuis de nombreuses années. Menacés d'expulsion en plein cœur de l'hiver, quand il faisait très froid, un comité de soutien s'est constitué avec des Ovillois d'horizons très différents. Ça va du MoDem au NPA. On y trouve des gens de ROSF, du Parti communiste, du DAL, du PS, du CCFD, etc. Depuis janvier, les Roms et le comité de soutien ont pu faire reculer la date de l'expulsion à deux reprises. Ce répit de quelques mois a permis la scolarisation d'enfants. Des enfants dont certains n'avaient jamais fréquenté l'école sont scolarisés dans les classes de la ville, dans des classes non francophones. Actuellement, le comité aide les Roms à obtenir l'aide médicale d'État pour leur permettre l'accès à la santé. Pour le moment, l'urgence, c'est de faire reconnaître le droit à un hébergement digne. Il est indispensable de trouver des solutions d'hébergement, nous préférons de logement. Et ce que souhaitent ces populations, c'est de vivre tout simplement sur un terrain, ensemble, dans des caravanes. C'était donc un exemple de solidarité vécue avec nos concitoyens d'Europe. Bonne journée à tous.
Merci d'avoir réalisé cette émission sur les Tziganes ou les Roms. J'ai l'impression que cette année, le souvenir des déportés a été zappé par les radios. Et quelle déception. Annick de Tours, fille et petite fille de déportés résistants. Au revoir et bon courage. Merci pour les émissions.
Oui, bonjour. J'appelais pour vous demander si le temps de parole d'Hervé Novelli, secrétaire d'État au commerce, serait comptabilisé au nom de l'UMP ou au nom du Front National. Ciao. Et la lutte continue, on lâche rien. Bis.
On n'entend pas parler dans les médias ou très peu, mais Sarkozy vient de redonner un coup de pied dans la laïcité. Un décret du président de la République du 19 avril au journal officiel abolit de facto une vieille loi de 1880 qui enlevait aux établissements catholiques le droit de distribuer des diplômes universitaires reconnus par l'État. Le décret légalise un accord signé entre le Saint-Siège et Bernard Kouchner portant sur la reconnaissance mutuelle des diplômes. Sans commentaire, bonsoir à tous.
Oui, salut Daniel, bonjour AMG, bonjour à tous. Je viens d'apprendre qu'il y a un premier cas de grippe porcine en Espagne. Et qui est en Espagne aujourd'hui ? Eh bien notre ami Sarkozy. Aïe, aïe, aïe. Alors je sais pas, deux solutions. Soit M. Sarkozy, vous le gardez en quarantaine pour éviter toute épidémie en France. Ou alors vous le gardez pour l'éternité. Bye bye.
Salut Daniel. C'est le 1er août 1895 que les verriers de Carmaux dans le Tarn firent appel à Jean Jaurès pour les aider dans leur lutte contre leur patron. Depuis 2 ans déjà, les forces patronales et gouvernementales s'employaient à faire échec à la progression du socialisme et du syndicalisme. Et oui, déjà à l'époque, c'était comme ça. L'épreuve de force allait durer plusieurs mois. Après des luttes et des grèves interminables, les grévistes appuyés par Jaurès inaugurèrent la verrerie ouvrière d'Albi qu'ils avaient construite eux-mêmes et qui appartiendrait par le biais d'organisations syndicales et coopératives à l'ensemble du mouvement ouvrier. C'était il y a plus d'un siècle et ce fut un grand élan de modernisme. Malheureusement, la démocratie molle nous a foutu dans le cul cette dictature capitaliste à outrance et nous a fait croire qu'il n'y avait pas d'autre système de société. L'entreprise sans patron ni actionnaire et autogérée existe un peu partout dans le monde, notamment en Argentine, mais elles sont peu aidées ni médiatisées. Le 1er mai, soyons là et présents dans les manifs, montrons-leur que l'entreprise sans ouvriers est impossible. Par contre, l'entreprise sans patron est possible, est possible. Voilà, c'est Olivier du Haut-Doubs.
Merci pour ces messages, chers AMG, auditeurs modestes et géniaux. Nous voici de retour des États-Unis, de Boston, les micros pleins d'histoires, de sons et de paroles. Les paroles de Howard Zinn, historien américain, auteur de l'histoire populaire des États-Unis, avec qui nous avons passé de longs moments, de micros pleins des paroles de Noam Chomsky, que nous avons retrouvé pour lui poser les questions que les spectateurs du film Chomsky et compagnie nous ont posées, auxquelles nous n'avons pas toujours su répondre. Alors on a apporté ces questions à Chomsky, qui a répondu et développé un certain nombre de thèmes. Et puis on s'est intéressé aussi à une histoire magnifique dont je vous ai déjà parlé alors que j'étais à Boston, celle du pain et des roses, Bread and Roses, cette histoire formidable d'ouvrières des textiles et des filatures en grève dans une ville voisine de Boston. C'est un thème très proche de celui-là qu'on va aborder aujourd'hui, l'histoire de Gandrange. Vous vous souvenez ? On a déjà oublié, non ? Un mensonge d'État sans importance que cette histoire de Gandrange. Le chef de l'État fait des promesses devant des caméras, devant des centaines de journalistes, devant des millions de téléspectateurs, devant les salariés qui risquent d'être licenciés, qui le sont aujourd'hui, et aucune de ces promesses n'a été tenue. Y a-t-il des précédents aussi énormes dans notre histoire républicaine? Je pose la question aux historiens qui doivent nous écouter. En tout cas, avec Aline Leclerc, on est retourné à Gandrange et on y retourne aujourd'hui pour comprendre de l'intérieur des mots, de l'intérieur des hommes, de l'intérieur de ceux qui sont, qu'en peuvent plus, qui sont complètement épuisés, dépités, résignés. Là, il faut mettre un point d'interrogation et on le gardera jusqu'au bout de cette heure de là-bas si j'y suis. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Oui, bonsoir Daniel. Écoute, ça y est, j'ai réussi enfin à l'avoir, Fakir. Bon, j'ai fait quand même, 40 km aller-retour pour l'avoir. Parce que figure-toi que quand on est un rural, on ne peut pas se procurer la presse qu'on veut. La petite dame bien gentille du village qui tient la maison de la presse m'a expliqué qu'en fait, ils ne choisissent pas ce qu'ils vendent. Et non. C'est un établissement qui s'appelle la SAD, alors c'est un service de diffusion de presse, et c'est eux qui choisissent là où ils vont déposer les petits journaux à vendre. Par contre, on a pas mal de trucs bien sympas où on peut apprendre les mariages des princes, des princesses et tout ça. On a plein de revues très intéressantes. Mais Fakir n'est pas prêt d'arriver chez nous, les bouseux. Donc, il faudra se déplacer, ou en tracteur, ou à pied, ou à cheval. Voilà, merci. Au revoir, Daniel.
Oui, bonjour là-bas. Oui, Gilles de ce beau département nucléarisé de la Manche, le 50. Donc, je vous appelle pour dire qu'on tiendra un café repère le jeudi 30 avril à 18h au café solidaire au 32 rue Geoffroy de Montbré, à Coutances. Hein. Et le thème sera autour de la révolte. Hein. Voilà, donc essayez de venir nombreux après un premier café qu'on avait tenu autour de la Palestine. Voilà, à bientôt.
Bonjour à tous les AMG. C'est au moment où des milliers de salariés aimeraient bien pouvoir continuer à travailler la semaine que le gouvernement choisit de relancer le débat sur le travail du dimanche. Cette volonté de tout sacrifier sur l'autel de la consommation, au mépris du lien social, de la vie associative ou culturelle, est en tel décalage avec ce que la crise que nous vivons nous enseigne que cela en devient pathétique. Décidément, ceux-là même qui décriaient le modèle social français et qui se vantent aujourd'hui qu'il est un fantastique amortisseur à la crise, ne peuvent s'empêcher de continuer à essayer de le démonter méthodiquement. Alors si vous aussi vous tenez au dimanche, en famille, entre amis, allez sur le site travaildimanche.com, une pétition s'y trouve qui a reçu déjà plus de 70 000 signatures. C'était Pascal Dumont.
Guillaume du Comège à l'appareil. J'appelle parce qu'on a, on organise une fête aux médias là, en Comège. Donc le Comège c'est vers Saint-Gaudens, Aurignac, tout ça, quoi, tous les petits villages. Et ce mercredi, il y a Pierre Carle qui nous fait l'honneur de venir présenter son dernier film, Choron Dernière, qui est sous-titré quand même Vie et mort du professeur Choron et de Charlie Hebdo. Donc c'est demain soir au cinéma de Saint-Michel à Aurignac. Allez, à bientôt, ciao.
Le gouvernement accorde 1,2 milliard pour l'emploi des jeunes. Plus de prélèvements sociaux sur l'emploi des moins de 25 ans. Et qui c'est qu'applaudit ? Le MEDEF. Ça n'empêchera pas le gouvernement de ne pas renouveler un emploi sur deux d'un départ à la retraite dans la fonction publique. Les jeunes doivent se contenter d'emplois précaires. Marie-Paul de Villejuif, au revoir.
La mauvaise nouvelle est arrivée par courrier hier.
France 3.
Selon la direction, impossible de sauvegarder une aciérie électrique et un laminoir à Gandrange.
30 mars 2008.
595 emplois seront supprimés.
Pas de bruit, rien, bon, à part le pyrotome qui coupe. Le calme, on n'a jamais connu ça. On n'a jamais connu ça.
Cette restructuration avait été envisagée mi-janvier par ArcelorMittal. Aujourd'hui, les salariés sont plutôt fatalistes.
Ici, ce qu'on veut faire, c'est détruire le social et détruire les connaissances. Et on se pose la question, demain, les jeunes, qu'est-ce qu'on va leur laisser ? Parce qu'on leur a tout cassé.
Qu'est-ce que c'est votre état d'esprit en ce moment ?
J'en ai plus. À la limite, j'existe plus.
Pourtant, le 4 février dernier, le président de la République s'était déplacé à Gandrange. Il avait promis une participation de l'État dans des investissements pour sauver l'activité du site.
L'État préfère investir pour moderniser le site plutôt que de payer de l'argent pour accompagner des gens, soit en pré-retraite, soit au chômage.
Mais Sarko, c'est un sacré baratineur, je vous jure. Il va dans le sens de ce que les gens veulent entendre. Ben les gars, ils l'applaudissent à la fin. Moi, je tombe sur le cul, je dis, merde, qu'est-ce qu'il raconte ce président ? Il raconte qu'il va continuer l'usine. Bon, on verra bien. Hein. Et puis, c'est couché en moins de deux. C'est couché en moins de deux.
Salut, c'est Daniel Mermès, et là-bas, si j'y suis, avec Aline Leclerc. Gandrange, un mensonge d'État sans importance.
Flight number 2, arriving from New York.
On est donc dans, tout près de la maison des syndicats, qui est au cœur en fait, du site d'ArcelorMittal Gandrange, pratiquement. Qu'est-ce que c'est cet endroit en fait ? C'est toute une vallée où il y avait un certain nombre d'usines comme ça, d'acierie.
Voilà, nous sommes dans la vallée des villes en ange.
car toutes les villes s'appellent Florange, voilà. Gandrange, Ucange, voilà. Mondelange.
Knutange, Nilvange, Agondange, Trémange, Clouange, Rosselange, Gandrange, Gandrange. Voilà. Et dans toutes ces villes en ange, il y avait des usines. Énormément d'usines, beaucoup d'usines. Et elles fabriquaient toutes des produits longs, on appelle ça des produits longs. Dans la sidérurgie, soit on fabrique des produits plats, soit des produits longs. Et puis aussi des aciers inoxydables. Donc là, dans cette vallée, on fabriquait des produits longs. Et nous sommes le résultat final de la restructuration de l'ensemble de la sidérurgie des produits longs. C'est la seule usine de produits longs qui existe en France.
Gandrange,
voilà. Il ne reste plus que celle-là, Gandrange. Et c'est la dernière usine qui existe, qui vont fermer. Eh oui, qui vont fermer. D'ailleurs, Mittal, il s'en tape des villes en ange, de Gandrange et de tout ce passé. Là, il s'en tape. Lui, ce qui l'intéresse, lui, c'est les dividendes, c'est tout ce qui l'intéresse. Qu'est-ce qu'il en a à foutre de savoir que dans cette aciérie, il y a une histoire d'hommes, mais d'hommes. Que dans ces usines, il y avait des histoires d'hommes. des histoires de gens qui ont vécu ensemble, qui ont travaillé ensemble, qui ont construit des choses ensemble. Ça, c'est en dehors du temps. Ça n'a pas de sens pour lui. C'est des valeurs que moi je mets en avant. Lui, la seule valeur qu'il met en avant, elle est sonnante et trébuchante. Il n'y a pas d'autre valeur pour M. Mittal.
Je me rendrai à Gandrange dans les 2 mois d'avenir pour graver dans le marbre ses engagements. Tout ce qu'a dit Nicolas Sarkozy, notre président de notre République, à ce sujet, au sujet de Gandrange, depuis sa première venue le 4 février 2008, tout ça n'était que boniment. Un bonimenteur, des bobards pour embobiner l'opinion, pour embobiner des travailleurs, pour embobiner des aujourd'hui licenciés, 575 suppressions d'emplois, dont 339 pour la Syrie. On verra ça plus en détail. Vous connaissez cette histoire, celle d'ArcelorMittal, mais on a voulu, avec Aline, revenir là-dessus. Revenir sur cet extraordinaire mensonge d'État. Quelle est la conséquence? Quelle est l'importance de ce mensonge d'État? On va peut-être un peu vite en oubliant de mettre un point d'interrogation au bout de la phrase « sans conséquence » ou « sans importance ». Est-ce que vraiment nous sommes tous résignés face à ce genre d'événements qui se multiplient? Celui-là en est sans doute la forme la plus paroxystique, mais c'est parce que on s'habitue aux autres, ça devient d'une banalité quotidienne. Qu'est-ce qui fait que on redoute quand même cette résignation? Encore une fois, je mets un point d'interrogation au bout de résignation. Les semaines, les mois à venir, nous dirons ce qui se passe dans la profondeur sociale, sociologique des choses. Sociologique, voilà des mots un peu savants. Il en faudrait des sociologues, il en faudrait des écrivains pointus, il en faudrait des cinéastes affûtés pour dire, exprimer ce que les hommes qui sont sur le terrain, ceux qui ont vécu, qui vivent ce qui se passe, disent avec autant de pertinence, autant de perspicacité, pas seulement sur ce qu'ils ressentent, bien évidemment, mais sur leur lecture, je dirais politique, de ce qui s'est passé, de ce qui se passe à Gandrange. C'est simple, c'est clair, ça vient de ceux qui ont de l'expérience. Et après tout, on est les experts de soi-même. Personne ne connaît mieux l'histoire que notre propre histoire. Et c'est ces histoires d'hommes, avec leurs mots, avec leur lutte aussi, ils ont lutté. Et lutteront-ils encore? Lutterons-nous à leur côté? C'est la question avec laquelle nous nous baladons, si j'ose dire, jusqu'à 16h. C'est là-bas si j'y suis, Gandrange, un mensonge d'État, sans importance.
Les salauds, chanson engagée. Une chanson contre les bourgeois qui crachent son venin à la face de la société. En blague, on va pas s'emmerder, non? Mon père est mort à la guerre, mon frère se tue au travail, et les salauds s'en moquent bien, que l'on crève comme les chiens. Les salauds, c'est à la sueur de notre front que les salauds gagnent leur pognon, et ils nous aident pour faire ripaille. Les copains de notre travail, les salauds, oui mais un jour on sera fort, et dans les villes et dans les ports, les hommes lèveront leur poing, pour foutre sur la gueule des rupins, les salauds, alors ils vont envoyer leur police, mais comme on est plus nombreux, on va leur foutre sur la gueule, et on va leur faire bouffer leur képi, parce que s'il y en a qui a m'emmerdé, j'y fous ma guitare à travers la gueule, à l'armée. On va pas s'emmerder par les flics, hein. Comme la gueule,
Venez, je vous emmène.
Alors, je mets un casque. Ok.
Voilà.
Vous travaillez, ça fait combien de temps que vous travaillez ici, vous?
Dans le groupe ArcelorMittal, ça fait depuis 68.
Vous êtes rentré en 1968?
En 1968, le 15 du 9 68. Attention la tête, hein.
Donc là, on est dans la scierie. Alors la scierie, elle est fermée, mais vous continuez un peu à faire des...
On fait de la découpe de ferraille. C'est disons pour occuper le moral des gens.
Parce que vous, vous n'êtes pas reclassé?
Non, pour le moment, toujours pas.
On vous a rien proposé?
On m'a proposé ici, dernièrement, le LCB, là.
D'aller au laminoir juste à côté?
Voilà.
Et donc, vous allez y aller?
Oui, je vais y aller, ouais. Moi, j'ai 55 ans cette année, je vais finir ma carrière ici, hein. Attention les escaliers.
Vous vous rappelez du jour où on vous a annoncé la fermeture?
J'étais au ski. Et j'ai un collègue qui m'a téléphoné, il m'a dit, on va fermer la scierie de Gordrange. Écoute, moi depuis que je suis rentré à la scierie de Gordrange, on m'a toujours dit qu'elle allait fermer. Alors je dis ça, c'est encore une fois un bobard et tout. Et ensuite j'ai entendu aux informations que ça allait fermer. Bon, je vais en voir. Hein. Alors ici, vous rentrez dans la cathédrale. Hein.
On appelle ça la cathédrale?
C'est la cathédrale, oui.
Parce que c'est haut et...
C'est immense, oui.
C'est immense, il y a des poutrelles métalliques de tous les côtés.
De tous les côtés.
Il y a des machines, des couloirs, des passerelles.
Des passerelles. Ici, je vais vous emmener. Il y a les lingotières. Ils faisaient du format 155 carrés. Comme ça, quand c'est calme, c'est atroce. C'est atroce. On a le moral à zéro, là. Parce que c'est atroce. Pas de bruit, rien. Bon, à part le pyrotome qui coupe. Le calme, on n'a jamais connu ça. On n'a jamais connu ça.
Là, qu'est-ce qu'il y avait?
C'était chaud. 1500, 1600 degrés.
Et là, j'ai froid aux mains, moi.
Ah ben voilà. Ça, c'est quand c'est la fin. Tout commence à avoir froid le bout des doigts. C'est un silence de mort. On se croirait dans une église, là. La cathédrale.
Qu'est-ce que vous aimiez ici?
Ah, j'aimais bien, c'était l'ambiance. Comment on pourrait appeler? En patois lorrain, on appelle ça ce ch'tiplé. C'est-à-dire se lancer des vannes. Hein? T'as vu comme t'es foutu ou t'es vraiment un blaireau ou des conneries comme ça. On avait une super ambiance. Ici, c'était de la rigolade.
Alors là, il y a les blouses, en fait, des gens qui travaillaient
voilà,
ici.
Voilà, qui travaillaient ici.
Avec leur nom, Gonzalez, voilà, hein. Furc, Maurice. Donc, ils ont posé leur veste anti-chaleur.
Voilà, en mémoire du travail qu'on a fourni.
Et là, elles sont alignées. Il y a 6 blouses alignées, voilà. 6 blouses argentées posées sur les machines.
Voilà.
Oh là là, donc là, on domine tout.
Là, vous dominez tout. Maintenant, c'est le domaine des chats.
Maintenant, c'est le domaine des chats?
Oui, voilà. Quand on a vu l'apport de jeunes qui sont arrivés, on était contents. On a dit, on va pouvoir transmettre nos compétences. Et puis, du jour au lendemain, on leur dit que ça va fermer. C'était toute notre vie, tous nos copains, nos collègues de travail. Maintenant, une petite note d'humour. On a des pigeons ici. Est-ce qu'ils vont être classés aussi, eux? Non, on ne sait pas.
Et vous, vous avez l'impression d'avoir été pris pour des pigeons?
Exactement. On nous a fait miroiter plein de choses et pour le moment, on n'a toujours rien. Voilà.
Vous étiez là, vous, quand Nicolas Sarkozy est venu?
Oui, oui, oui. Quelle mascarade. Quelle mascarade. C'était vraiment...
À Gandrange, on attendait le président de la République. C'est un ardent défenseur de la sidérurgie lorraine qui s'est présenté.
France 3, 4 février 2008.
Au pas de charge et en tête d'une coulée continue d'officiels, Nicolas Sarkozy est venu rassurer les 600 salariés menacés par le plan de restructuration d'ArcelorMittal.
Première solution, on arrive à convaincre M. Mittal de laisser ouvert toute ou partie du site. Dans ce cas-là, on investira avec lui. Deuxième solution, qu'on essaye de trouver un repreneur, et il en existe, on investira avec lui pour laisser le site ouvert.
Mais Mais vous, quand vous l'entendez dire que l'État va investir...
Oui, qu'ils vont s'occuper de nous, tatati, tatata. Et vous regardez sur les autres entreprises qui ferment en ce moment, qui doivent faire un tour à Caterpillar ou tout, ils tiennent le même discours. Ils tiennent le même discours, et ben, et les pauvres gens, ben, comme nous, puis... au revoir, messieurs. Les gens, ils se sont donnés pour leur société, et puis voilà le remerciement, quoi.
Première intervention du président de la République le lundi 4 février 2008, vous avez peut-être déjà oublié, mais à cette époque, il est en chute libre dans les sondages. Et c'est pas indifférent au fait qu'il se soit invité à la série de Gandrange, une visite de 45 minutes, suivie d'une cortège, une traîne de caméra, il grimpe sur une estrade, il promet aux salariés ce que l'on vient d'évoquer, il leur dit qu'on ne les laissera pas tomber, il promet que l'État va sauver Gandrange, je préfère investir pour maintenir l'outil de production plutôt que de payer de l'argent pour garder les gens chez eux, en pré-retraite ou au chômage évidemment. Les métallos qui sont là, qui sont inquiets, qui sont morts de trouille, sont emballés, ils applaudissent à tout rompre. Et le sujet, on l'a entendu, fait l'ouverture de tous les JT, de toutes nos télés. Les municipales sont dans un mois, ne l'oublions pas. Et ça joue beaucoup. C'est un effet pervers, sans doute, qu'il faudrait ne pas oublier. Un effet pervers de notre forme de démocratie, probablement. Et puis, il y a ce petit mot, ce petit détail. Sarkozy, Nicolas Sarkozy, s'est marié la veille, en catimini, et il conclut ainsi sa prestation. Gandrange, comme voyage de noces, il n'y a pas mieux. Évidemment, de quoi séduire les sidérurgistes qui sont là. Voilà l'histoire de Gandrange. C'est une longue histoire qui est en train de s'achever, telle qu'elle est racontée par Xavier Van Dien, un ouvrier, un salarié de Gandrange.
Gandrange a été créé en 69. Et Gandrange, justement, a été créé pour dire, voilà, on va fermer toutes les usines qui est autour et on va créer un immense complexe sidérurgique qui va regrouper toutes les productions de toutes les usines de nos alentours.
C'est vrai que c'est très impressionnant parce qu'elle est juste à côté, là, la Syrie, et c'est très haut, très vaste. C'est vraiment rien que dans le paysage, rien que géographiquement, c'est énorme, là.
C'est vrai que c'est comme un rappel de l'identité. Hein. C'est un monument où on peut mettre dedans 15 églises Notre-Dame de Paris. Vous voyez le monument que ça fait ? Elle fait plus de 70 mètres de haut. D'ailleurs, ça fait comme une espèce de petite montagne. On la voit de loin, de très très loin, parce que c'est le monument, le point culminant de toute la zone. Et l'ensemble faisait avant, en 75, 14 000 salariés. 14 000 salariés.
En 1975.
En 1975, c'est fou, hein. 14 000 salariés. Et de restructuration en restructuration, ils ont fermé tout autour de nous. Et puis il ne reste plus que l'usine de Gandrange où il y a 1000 salariés. Et 575 suppressions d'emplois. Dans la sidérurgie, il y a eu ces grandes phases de restructuration qu'on a connues dans les années 80. En 84, il y a eu le plan SI, je me rappelle encore. Il y avait un slogan qui était écrit sur le toit de la Syrie, hein, qui est aujourd'hui arrêté. Hein. Et sur le toit, on avait écrit Mitterrand trahison. Parce que déjà en 84, ils voulaient déjà la fermer, on s'était battu pour l'empêcher de le faire. Grande histoire de lutte, grande histoire de bagarre, quoi.
Et donc, en 84, elle n'a pas fermé. Dans les années 90, comment ça a évolué ?
Monsieur Chirac était Premier ministre à l'époque. Il a désigné un patron commun qui s'appelait Monsieur Francis Maire.
Qui fut après ministre de l'économie ?
Voilà. Il a fusionné les deux groupes, Usinor et Sassilor. Et de la fusion des deux groupes, il a encore une fois fait une restructuration. Et c'est dans cette restructuration, il a encore une fois supprimé des milliers d'emplois. Il a tellement supprimé d'emplois à M. Francis Maire qu'il y a un dicton sur M. Francis Maire. Le dicton, il dit M. Francis Maire n'ira jamais en enfer. Pourquoi il n'ira jamais en enfer ? Parce qu'il y fermerait encore les hauts fourneaux et les aciéries. Tellement, mais tellement cet homme-là, il a détruit d'usines et d'emplois et de familles. C'est lui qui a ramené la sidérurgie française à la portion congrue. Et donc, il a fait un groupe rentable qui dirigeait des bénéfices. Il y avait à l'époque un petit bout qui ne plaisait pas trop, c'était notre usine. On s'appelait Unimetal à l'époque. Donc les produits longs, ça ne lui plaisait pas trop à l'époque. Il disait, oh, ça perd de l'argent. Je vais le vendre. Puis je connais un petit monsieur, là, un petit indien qui est intéressé. Là. Donc il a vendu, en 99, il a vendu Unimetal à monsieur Mittal.
Pour combien?
Pour rien. Pour rien, il lui a donné.
Un franc symbolique, on dit.
Mittal, il a eu l'usine gratuitement, mais complètement gratuitement. Voilà. Et contradictoirement, et c'est ça qui est assez étonnant, c'est que dès que Mittal a repris les rênes, il y a eu des évolutions favorables aux salariés. Il y a eu des embauches, il y a eu des salaires qui ont été augmentés, le statut du salarié s'est amélioré.
2006, c'est ce qu'on appelle une OPA hostile. Mittal prend la main sur Arcelor et devient le groupe ArcelorMittal. Vous vous retrouvez dans le même groupe avec le site de Florange, qui est à quelques kilomètres d'ici, qui était resté Arcelor, vous étiez resté Mittal, et vous vous retrouvez avec Florange dans le même groupe, comme au temps d'Usinor.
Bah exactement. Et là, M. Mittal, il dit, je vais développer des productions, je vais développer des investissements, je ne veux plus fermer les hauts fourneaux. Hein, il a dit ça.
Donc il a donné de l'espoir quand il est arrivé ici, en fait.
Bah, tout à fait. Tout à fait, il a donné même beaucoup d'espoir, parce que le fondement même de la raison d'être de la sidérurgie, dans le coin, c'est l'existence des hauts fourneaux de la scierie. Donc, à partir du moment où M. Mittal s'engage sur la voie en disant « je vais maintenir les hauts fourneaux », ça veut dire, bon, ben voilà, on peut être rassuré pour le maintien de la sidérurgie en Lorraine.
Que de chemin parcouru depuis ce jour de janvier 2006 où Lakshmi Mittal lançait son OPA sur Arcelor.
France 3, 16 août 2007.
Aujourd'hui, le milliardaire indien a réussi son OPA. Devant les actionnaires, l'industriel n'a désormais qu'un mot à la bouche, la croissance d'ArcelorMittal.
Ce n'est pas une revanche. Je suis satisfait que les arguments que nous avons développés lors de la bataille entre Arcelor et Mittal Steel aient été tenus. Nous avons pu créer de la richesse, réaliser des profits, réaliser les perspectives que nous avions promises.
Après, c'est des douches froides. Après, au début 2008, M. Mittal, il regarde tous ses outils qu'il a achetés, dont nous, Gandrange, nous faisons partie. Et là, il décide, cette usine, elle n'a pas le taux de rentabilité que je souhaite, donc je la ferme. Il restructure, quoi. Ce que font pratiquement tous les groupes quand ils se rassemblent. Au moment où il prend la décision d'arrêter l'entreprise, c'est pas parce qu'elle va mal. C'est parce que les gains ne sont pas assez forts. Ils estiment qu'à travers une réorganisation des produits longs en Europe, on fera davantage de résultats. En 2008, le résultat net du groupe ArcelorMittal, c'est 9 milliards de dollars en Europe. Ça ne produit pas assez d'argent pour eux. Voilà.
Pour les actionnaires.
Pour les actionnaires, exactement. Surtout à lui. Hein. Parce que M. Mittal, il a, lui et sa famille, 45% du groupe. 45,6% des actions. Donc, le 9 janvier 2008, le patron nous annonce 575 suppressions d'emplois. C'est beaucoup, c'est énorme, c'est les deux tiers de l'entreprise. Et dans les 575 suppressions d'emplois, il nous dit, on va reclasser tout le monde à Florange.
Pas d'inquiétude.
Pas d'inquiétude, tout va bien, tout le monde sera reclassé. Il n'y a pas de licenciement. Il y a 575 suppressions d'emplois. Les suppressions d'emplois, elles se feront par différentes manières. Soit on mute des gens, sur Florence, sur Luxembourg, donc c'est des mutations. Soit on demande aux gens, bah, écoutez, vous trouvez vous-même un autre employeur, donc c'est un départ volontaire. Ou soit c'est des mesures de départ à la retraite. Donc voilà les 575 suppressions d'emplois, comment devrait se faire. Si ça coince au niveau des mutations que l'on propose aux salariés, là, ça peut aboutir à des licenciements. Et le problème, c'est que ça coince. Ça coince parce que la sidérurgie, elle subit de plein fouet la crise, ce qui n'était pas le cas au moment de la décision de la fermeture de l'entreprise.
Ou au contraire, c'était le moment phare de l'acier.
Exactement. Et donc, comme cette crise, elle coince dans les différentes sociétés d'ArcelorMittal, que ce soit Luxembourg, à Florange ou ailleurs, les mutations, elles ont été bloquées pendant un bon moment. Elles commencent à reprendre, mais extrêmement timidement.
Comment ça va par chez toi? T'as ramassé ce que t'as cassé? Pour cet hiver, ça ira le bois. Et ta plaie s'est-elle effacée? J'ai Fais gaffe à pas rester tout seul. Dans ta tête, les nuits sont pas sûres. Si le sol s'effondre, faut que tu gueules. Faut plus que ça pleuve sur ta figure. Il s'est assis à côté de nous. Ça y est, c'est la fin de la journée. Il voudrait gueuler, rendez-vous. Ses soucis, on va les scier. On s'est assis à côté de lui. Sa fin de rencontre est heureuse. Il va nous prêter ses envies. Et c'est chacun sa tronçonneuse. Dehors, t'as vu, ça bastonne sec. Y en a à dire que c'est la vie. Ben on la vivra, pas vrai mec? Ou bien t'as toujours plus d'avis? On se le repartage ce banc. On se les reconte ces étoiles. On se les repulvérise ces moments. On se les retisse ces voiles. Bien sûr qu'on s'est toujours bien menti. Et pourquoi qu'on changerait maintenant? Cogne-moi le front, mon ami. Si ça claque, on est corps vivant. On s'est assis à côté de lui. Sa fin de rencontre est heureuse. Il va nous prêter ses envies. Et c'est chacun sa tronçonneuse.
Il en faut quand même, il en faut des spécialistes, des experts, des médias, des intellos médiatiques pour arriver à calmer cette révolte. Cette révolte naturelle face à tant d'indignation et tant d'indignité, d'injustice. Il en faut hein, des experts pour calmer tout ça et pour faire croire que tout ça est une fatalité, un mauvais moment à passer, qu'il suffit de faire le dos rond et puis, comme d'habitude, on s'en sortira et qu'au contraire, il faut tous ensemble se serrer les coudes et puis voilà, comme une intempérie qui nous concernerait tous et qui ne serait que passagère et surtout sans cause et sans origine bien spéciale et sans issue et sans alternative non plus. On est à Gandrange avec Aline, à laquelle Jackie Maskelly, délégué CGT, fait découvrir un endroit formidable, mais absolument merveilleux, là où il est venu.
Salut Kevin,
ça va?
Bonjour.
Et c'est la machine numéro 1. Ça, c'est la CC, ce qu'on appelait la coulée continue numéro 1. Elle a démarré en août 80. Moi, j'étais pas là. Je suis arrivé en juin 82.
Et c'est ici que Nicolas Sarkozy est venu. Le 4 février à Gandrange, le 4 février 2008. Alors moi, je suis Jackie Maskelly, je suis secrétaire du syndicat CGT d'ArcelorMittal à Gandrange et élu au comité d'entreprise à Gandrange.
Donc là, on est très impressionnant, on est au cœur de cette espèce d'énorme hangar, mais très 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 haut, très profond, avec des tôles et des machines de tous les côtés. Et alors, donc c'est là que Nicolas Sarkozy est venu en février 2008.
Il y avait eu une estrade qui avait été aménagée, bien sûr.
Là où il y a un tas de ferraille. Là, il y a un amas de ferraille, là, ici.
Oui, de ferraille, de blum découpé, de ronds découpés. Mais c'est effectivement ici que Nicolas Sarkozy est venu.
Comment ça se passe? C'est vous qui l'invitez? Comment ça se passe?
Non. Nous avons d'abord été reçus à l'Elysée le 31 janvier. Et si nous avons été reçus à l'Elysée, c'est parce qu'il y avait une mobilisation importante des salariés, des élus. Donc Nicolas Sarkozy, il a dit « je reçois les syndicats ». Bon, la rencontre, elle se passe bien. Il allait presque dans l'autre sens en disant que oui, effectivement, la sidérurgie en Lorraine, elle a de l'avenir. Je suis persuadé qu'on peut faire quelque chose. Il ne faut pas que ce soit une industrie qui ferme. Et c'est à ce moment-là qu'il nous dit « est-ce que vous, les syndicats, vous m'invitez à venir à Gandrange ?» Et on lui a dit « oui, nous, monsieur le président de la République, on souhaiterait que vous veniez à Gandrange pour conforter ce que vous venez de nous dire, que la sidérurgie en Lorraine, elle avait de l'avenir. » Donc on était le 31 janvier et il a dit « bon, ben, je viens le 4 février à Gandrange à 9h ». Donc il est venu, c'est lui qui a dit il est préférable d'investir...
L'État préfère investir...
...dans une industrie pour la faire fonctionner...
...plutôt que de payer de l'argent pour accompagner des gens, soit en pré-retraite, soit au chômage.
C'est lui qui a dit...
Ce qui se joue, c'est la présence d'usines sur le territoire de notre pays.
Un pays sans usines, c'est un pays sans économie. C'est lui qui a tenu ces propos-là. Bon, les salariés qui l'écoutaient, ils l'ont déjà applaudi. Ils se disaient peut-être que le président de la République, enfin, il a une volonté politique d'industrialisation en France. Constat aujourd'hui, il a menti. C'est le constat qu'on peut faire, quoi. On est dans l'accompagnement social et il y a des salariés qui sont pas reclassés.
La visite s'achève sur une note d'humour.
Et je dois dire que Gandrange, comme voyage de noces, il n'y a pas mieux.
9,4 milliards de dollars, c'est les bénéfices nets d'ArcelorMittal pour 2008. C'est un peu moins qu'en 2007, où c'était 10,36 milliards de dollars, c'est-à-dire 7,5 milliards d'euros, et ce qui était une augmentation de 30% par rapport à 2006. Vous voyez qu'il n'y a pas que des mauvais résultats, il n'y a que de mauvais ouvriers.
Vous êtes au pied de la scierie de Gandrange.
Notre mutation, quoi.
Vous attendez votre mutation.
Oui.
Et vous devez être muté où, vous savez?
Ben non. Si on le saurait, on irait tout de suite. On ne sait pas là où on va aller encore. Pour l'instant, on n'a rien.
Et vous, monsieur, vous savez où vous allez être muté?
Non, chômeur. Pour ma part, il n'y aura pas de reclassement.
Pourquoi?
Je suis à l'orée de mes 56 ans, comme ici les trois quarts qui sont là. Il n'y aura pas de place pour nous. Voilà notre carrière, comment elle se termine. Mais on savait que Mittal, c'était un businessman. Donc on savait que tôt ou tard, quand il avait fait ses OPA et tout, son argent, donc il nous mettra à la porte. Hein. Le monde ouvrier, il s'en fout, le monde ouvrier. Hein. Lui, c'est l'argent. Hein.
Vous avez l'impression que vous comptez pas?
Pas du tout. Nous, on n'est qu'un point de détail. On est, quand on gratte en fond de la poubelle, eh ben, on est cela. Hein. Travaillant les feux continus, en travaillant avec le chaud, le froid, les produits toxiques, au départ avec l'amiante. Aujourd'hui, la récompense. Hein. J'ai les crédits, j'ai une partie de la maison, j'ai une voiture, je suis en train de faire des travaux encore de la maison. Donc demain, est-ce que nos créanciers ne vont pas venir reprendre nos maisons et nos biens? Donc on sait qu'au jour d'aujourd'hui, on a travaillé, mais pour rien conserver. Hein. Parce que rien ne nous appartient.
Donc là, quand on dit aujourd'hui, la plupart des ouvriers de Gandrange sont reclassés, en tout cas, vous, vous n'êtes pas reclassé, vous n'avez pas.
Aujourd'hui, tous les gens qui sont anciens, on les a mis dans une poubelle en attendant d'espérer de reclasser les jeunes. C'est tout. Mais les jeunes, aujourd'hui, ne sont pas à l'abri, vu la conjoncture actuelle. Donc, on se moque de nous. Hein. Quand on a connu les anciens qui nous ont pris leur métier et leur connaissance, aujourd'hui, on essaie de faire la même chose, c'est plus le cas.
Vous avez l'impression de ne pas avoir pu transmettre ce que vous saviez, votre savoir-faire?
Ben, on n'a pas pu retransmettre. On est en train de recruter dans les pays les moins chers. Donc ici, ce qu'on veut faire, c'est détruire le social et détruire les connaissances. Hein. Et on se pose la question, demain, les jeunes, qu'est-ce qu'on va leur laisser? Parce qu'on leur a tout cassé.
Qu'est-ce que c'est votre état d'esprit en ce moment?
J'en ai plus. À la limite, j'existe plus.
Donc là, on voit encore ces salariés qui sont là, au pied de la scierie.
Des aciéristes, il y en a une cinquantaine à qui on n'a rien proposé du tout. Ils sont sur le carreau. C'est les salariés qu'on voit ici. Et quand on voit aujourd'hui les annonces qui ont été faites sur le site de Florange...
Parce que donc, le 8 avril, on a appris que les hauts fourneaux à Florange, qui sont donc à quelques kilomètres, allaient être mis à l'arrêt et que les salariés seraient vraisemblablement au chômage partiel pour une période incertaine.
Pour une période indéterminée, puisque la direction du groupe ArcelorMittal n'a pas donné de date de reprise. Il y a beaucoup d'installations sur le site de Florange qui sont à l'arrêt, alors qu'elles devaient accueillir des salariés de Gandrange. Voilà, on y va.
À demain.
À demain.
Demain, 7h30.
Pourquoi demain, 7h30?
Nos camarades de la CGT à Florange, ils ont appelé à un grand rassemblement devant les grands bureaux à Florange pour protester contre les annonces que le groupe ArcelorMittal vient de faire. Nous avons demandé au personnel, donc qui est encore là, de faire la démonstration là-haut que tous les salariés de Gandrange ne sont pas reclassés comme la direction le prétendait.
On peut vous dire, bah oui, mais pour le coup, c'est pas de leur faute, c'est la crise.
Je pense que, à partir des résultats records qui ont été annoncés depuis 2006, Il n'y a aucune raison que les salariés subissent aujourd'hui les conséquences des politiques qui sont menées par Mittal. Bon, tu vois, ils sont là.
Deuxième rencontre en trois jours. Lakshmi Mittal, le PDG du groupe sidérurgique, a rendez-vous avec Nicolas Sarkozy.
France 3, 16 janvier 2008.
Les deux hommes se sont déjà vus brièvement vendredi en Inde. Au programme, la suppression de près de 600 emplois sur le site de Gandrange, en Moselle.
Lakshmi Mittal.
J'ai expliqué au président que dans aucun cas il n'y aurait des licenciements. Nous allons continuer à discuter avec les syndicats pour trouver des solutions pour tous les employés.
Ici, on est à la Serpro.
Bilan, formation, reclassement, à Serpro. Passerelle pour l'emploi, c'est la pancarte. Non, là, vous êtes une dizaine. Vous êtes sept, donc vous travaillez tous à Gandrange sur la Syrie ?
Oui, tous à la Syrie. Et depuis l'annonce de la fermeture, on n'arrive pas à nous caser. On nous envoie ici faire un bilan de compétences, voir de quoi on est capable.
Vous n'avez pas eu d'offre d'emploi, vous ?
On n'a rien du tout. Le nombre qu'on est là, les sept, on n'a aucune offre d'emploi. Joseph, je travaille à Gandrange, je suis rentré en 79. Octobre 79, j'ai fait que ça toute ma vie. Moi, j'ai commencé dans un atelier à 14 ans. Et à 17 ans, je sortais de l'atelier, je rentrais en usine. Je ne suis plus jamais sorti de l'usine. Et aujourd'hui, on se retrouve presque dans des bancs d'école. Maintenant, on vient nous dire, eh ben, il faut voir comment vous travaillez avec vos mains. Mais les mains, pendant 30 ans, ils ont bien travaillé. Ils ont pu rapporter de l'argent à la société. Pourquoi qu'aujourd'hui, nos mains, il faut voir s'ils valent encore quelque chose.
Vous trouvez ça humiliant ?
Au départ, la première journée, on a trouvé ça humiliant, oui. Parce qu'on se dit, c'est une boîte de garage. Mais en discutant avec le responsable, on s'aperçoit que peut-être, on ne nous ment pas. Peut-être, je dis bien peut-être, qu'on essaye de trouver pour nous recaser. Je dis bien peut-être.
Il y a la partie reclassement qui n'est pas... Dieu de notre ressort.
Vous, c'est ArcelorMittal qui vous a demandé d'accueillir ces gens
Oui, mais on est aujourd'hui un organisme complètement indépendant. Nous, notre objectif et ce qu'on nous a demandé, c'est de faire un bilan. Et ça s'arrêtera là pour nous.
Hein. C'est pas ce qu'on nous a dit au départ.
Mais aujourd'hui, on ne nous a jamais demandé de nous charger de votre reclassement, que ce soit en interne ou en externe.
Parce qu'il y a quand même des choses qu'on ne comprend pas. On est à 7, là. Bon, moi, je suis usé, je suis SKT, c'est vrai. J'ai des radios, j'ai des IRM, je suis SKT, d'accord. Mais il y a des gens qui ne sont pas SKT. Ils ont fait un mélange de gens de tous les sortes. Il y a des jeunes, il y a des vieux. Je ne comprends pas ce qu'ils ont fait.
Est-ce que vous pensez qu'ils pourraient avoir envoyé des gens en bilan de compétences parce qu'ils ne savent pas où les mettre pour l'instant ?
Oui, c'est ça.
Ça, on l'a entendu partout. Je veux dire, j'en discutais encore cet après-midi. On dit, quand on est dans une période de difficulté, un bon moyen, et d'ailleurs c'est une incitation, y compris des pouvoirs publics, c'est de dire, profitez-en pour faire de la formation. Un bilan de compétences rentre dans la formation. Maintenant, est-ce que ça a été utilisé parce qu'ils ne savent pas quoi faire ? Je ne sais pas la question que je me pose.
Nous, on ne sait vraiment pas où on va. On ne sait pas.
Vous avez des enfants, vous ?
Oui. J'ai deux enfants. J'ai un fils qui s'est retrouvé dans la même situation que moi.
Il travaille avec vous ?
Oui, il travaille avec moi. En l'aiguillé sur Florange. Et il vient d'apprendre dernièrement que Florange fermait ses portes, VGT, quoi. Donc,
Ils ont mis à l'arrêt le premier haut fourneau, ils risquent de mettre à l'arrêt le second.
Donc on est à deux dans une famille déjà, le père et le fils. Le père qui se retrouve à la Serpro et le fils qui se retrouve sur la touche. Alors il y a beaucoup de questions à se poser. Plus personne ne sait si ça ment, si ça ment pas. Nos patrons nous racontent du blabla pour savoir qu'on n'est pas bien dans notre peau. Hein. On n'est pas bien, on n'est pas chez nous, là. On n'a rien à perdre, là.
C'est où, chez vous ?
Chez nous, c'est l'usine. C'est tout. Moi, j'ai vécu qu'en usine. Je connais que l'usine. Quand je partais de la maison, c'était pour aller à l'usine. Et quand je rentrais de l'usine, c'était pour aller à la maison.
Pour rappeler le jour où vous avez appris que la scierie de Gandrange allait fermer ?
Ouais.
Ça vous émeut encore, en fait ?
Ça veut dire qu'il t'autorise à sortir.
Où est-ce que vous étiez, vous, à ce moment-là ?
Au coulé continu. Je travaille avec mon fils, et puis...
Vous n'avez plus de voix ?
Plus de bulles.
Parce qu'on pense que ça fait un an, et que du coup, l'eau a coulé sous les ponts, et que pour vous, vous êtes passé à autre chose, mais pas du tout, en fait.
Non, c'est pire qu'avant. C'est pire qu'avant. On est tous là en ce moment, on est tous sur les nerfs. Bientôt, les seuls qui vont perdre de l'argent, c'est les pharmacies. Parce qu'on est tous sous troxène, on est tous sous calmant. Tout le monde est énervé, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus de quoi parler. Et on se regarde, on se demande où on va aboutir là. Même si on me propose la retraite demain, je ne la veux pas. Je ne me sens pas capable encore de rentrer à la maison et dire « ça y est, j'ai fini ma vie professionnelle, j'ai 53 ans et je veux tirer encore une paire d'années à travailler, avoir côtoyé des gens et avoir une place, me sentir responsable de quelque chose ».
Et quand Nicolas Sarkozy est venu, vous étiez là, vous ?
Oui, on était dans l'usine, on s'était rassemblés, il a été très bien accueilli, on était contents de le voir, c'est notre président.
Qu'est-ce que ça représentait pour vous qui viennent ?
Ben, ça représentait une porte de sortie déjà. C'était une assurance qu'on ait une place, qu'on ait quelque chose qui se passe. Mais je crois que c'est plutôt Mittal qui tire les ficelles du gouvernement et pas Sarkozy. On ne peut plus compter sur lui, quoi. C'est plus la peine. Il nous a trahis et puis, bon, ben, tout le monde le sait. C'est carrément une trahison, hein, ce qu'il a fait. On nous a pris pour des cons, quoi. Lui comme les autres. Hein. Ils nous ont pris pour des imbéciles.
D'ailleurs, c'est assez extraordinaire, mais pendant qu'ils ferment les deux tiers de notre usine, pendant qu'ils vont mettre en chômage des centaines et des centaines de salariés, des milliers de salariés à Florange, voire même des dizaines de milliers de salariés en Europe. Il y a une assemblée générale des actionnaires qui se tient le 12 mai, et à l'ordre du jour, c'est la rémunération des hauts dirigeants, la rétribution des stock options. Mais c'est fou, ça. C'est fou, ça. C'est vraiment le monde qui est complètement tordu, qui marche complètement à l'envers. Alors vous voyez, il y a des hauts dirigeants qui sont étroitement intéressés à la valeur que va prendre l'action au cours de bourse. Et quand ils ont annoncé le 8 avril que 45% des installations allaient s'arrêter, il y a le cours de bourse qui a grimpé. Le même jour. Hein. Des décisions pour quelques actionnaires, et je rappelle que M. Mittal et sa famille, c'est 45%. Hein. Donc des décisions qui sont pour les actionnaires, pour une famille d'ultra-riches, d'ultra-mondiaux, elles détruisent des régions, détruisent une vallée de l'Orne, comme notre vallée, là, avec la seule usine qui reste. Ils vont mettre au chômage des milliers de personnes, des sous-traitants qui sont mis à la porte, des intérimaires qui sont évacués. Mais c'est à gerber, ça. C'est à gerber, un système comme ça. Il ne peut pas durer, ce système-là. Il est mort. Il ne peut pas durer. On ne peut pas fabriquer comme ça, constamment, du chômage. Ce n'est pas possible, ça. Et pourtant, quand je vois le G20 qui se réunit, quand je vois les mesures qui sont prises, c'est toujours dans le même sens. Ce n'est pas des mesures pour les gens qui bossent. Ce n'est pas des mesures pour l'emploi directement. C'est des mesures pour dire, on va essayer de maintenir comme on peut les profits de quelques-uns. Je parlais de mesures de chômage tout à l'heure, qui pourraient être de longue durée, vous voyez. Hein, mais en soi, qui va payer cette mesure-là? C'est la collectivité qui va payer. Hein. C'est l'UNEDIC, c'est les pouvoirs publics, c'est ça, c'est nos cotisations. Alors nos cotisations, nos impôts vont payer ce que les grands groupes ne paieront pas. Et ce que les grands groupes ne paieront pas, c'est les dividendes qui se mettent dans les poches. Alors quand on dit oui, mais il faut maintenir, on n'est pas compte, si on aide les entreprises, ça va permettre de maintenir l'emploi. Mon œil, aider les entreprises, ça n'a jamais servi à aider l'emploi. Ça a toujours servi à donner davantage de profit aux patrons, dont M. Mittal. Voilà à quoi ça va servir. Alors qu'il a eu 9 milliards de bénéfices en 2008, le monsieur. Alors qu'il va se taper 45,6%, hein, puisqu'il est actionnaire. Le monsieur.
Gandrange, un mensonge d'État sans importance, mais pas sans conséquence demain la suite. Les intérimaires, les sous-traitants, etc. C'était un reportage d'Aline Leclerc. Merci à tous et à toutes. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission La Basse, si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission et faire des commentaires. Vous pouvez la réécouter également sur labas.org, la-bas.org. La technique aujourd'hui, Jean-Philippe Jeanne et Julien Michel. C'est Koyen Guyenne et Raphaël Moutet à qui ont réalisé cette émission, assisté de Charlotte Perry et Agnès Lebot. Attends vos messages au répondeur de La Basse, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.